Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Opération Ndobo ou Hameçon à Kinshasa. Au moins 276 bandits urbains condamnés en l'espace d'un mois devant les cours des tribunaux sur plus de 2500 interpellés. Information livrée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ce mardi à Radio Kapi. Ituri, découverte ce week-end de 12 corps sans vie, non loin des villages de Buanasura et Haute-Maber, dans le sud d'Irumu. Il s'agit des personnes tuées par des présumés ADF. Les défenseurs des droits humains plaident pour l'intensification des opérations militaires dans cette zone. Et puis, le Centre pour handicapés physiques Chiri Kalaoumodja de Goma fête ses 60 ans d'existence au service de la communauté. Ce service de l'Église catholique accompagne en moyenne 2000 personnes chaque année. Pour en parler, nous recevons Sylvain Siaava, administrateur de ce centre. Madame, messieurs, bonjour. Au moins 276 bandits urbains ont été condamnés devant les cours et tribunaux sur plus de 2500 interpellés en l'espace d'un mois. C'est dans le cadre de l'opération Ndobo ou Hameçon à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a livré ces chiffres ce mardi dans un entretien accordé à Radio Kapi. Le patron de la territoriale a également précisé que 127 personnes ont été transférées aux prisons de haute sécurité à travers le pays, 149 sont en transit à la prison centrale de Makala et au moins 2301 se retrouvent encore en détention préventive. Jacquemain Chabani le dit au micro de Blaise Ndongala Mayenda.
Nous sommes en phase d'évaluation de cette première étape pour nous permettre de nous rassurer d'avoir de tout ce qui a déjà été fait et d'accentuer pour sécuriser davantage la ville de Kinshasa et nos populations. D'autres ont été relaxés parce qu'il n'y avait pas de charge qui les concernait après leur arrestation. Ils se sont sûrement trouvés malheureusement dans le mauvais milieu où la police était en train d'opérer face au banditisme urbain. Je crois que notre police fait un effort significatif. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous sommes en pleine opération de renforcement de notre police. Parce que c'est une police aussi qui a besoin d'être renforcée en termes de moyens opérationnels, mobilité, matériel de travail, mais aussi formation. Là, je peux rassurer nos populations qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour permettre à ce que la République démocratique du Congo soit dotée d'une police mieux qualifiée, mieux encadrée. Et nous allons très bientôt, ici, au courant de l'année 2025, lancer des grandes opérations de recrutement.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur assure que le gouvernement se propose d'étendre l'opération Ndobo à d'autres grandes villes du pays, dont Matadi, Kikwit, Goma, Lubumbashi et Mbandaka. Par ailleurs, le ministre d'État en charge de la justice salue la mesure sur la levée du moratoire de la peine de mort en RDC. C'était au cours du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et médias hier à Kinshasa. Constant Mutamba estime que cette mesure est nécessaire dans un pays en proie aux bandits urbains et aux agresseurs et détourneurs des deniers publics. Le compte-rendu de Blaise Ndongala Mayenda.
Devant les journalistes de plusieurs médias, le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a pas caché sa satisfaction de voir le pays exécuter la peine de mort pour décourager tout ce qui entrave la vie des Congolaises et Congolais. Il est d'avis que la RDC n'a pas droit de tout copier de l'Occident au risque de s'engager au débat stérile alors qu'il a grandement besoin de garantir le minimum possible à ses citoyens. Constant Mutamba.
On ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs des sécurités du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens.
Pour les ministres d'État, ministres de la Justice, la levée du moratoire sur la peine de mort ne constitue aucunement un recul des droits de l'homme à travers le pays. Constant Mutamba a cité certains pays de l'Occident reconnus dans la défense des droits de l'homme, mais qui appliquent la peine de mort à l'instar des États-Unis d'Amérique.
Aux États-Unis d'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas droit de l'homme aux États-Unis?
Le ministre de la Justice a par ailleurs balayé du revers de la main la rumeur selon laquelle il aurait envoyé une vague d'inciviques dans d'autres provinces du pays pour qu'ils soient exécutés.
Pendant ce temps, la Fondation Bill Clinton pour la paix plaide pour l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Elle plaide également pour que l'État congolais installe une cabine téléphonique à la prison centrale de Makala, à Kinshasa. Cela permettra aux pensionnaires d'être en contact avec leurs familles qui leur apportent de la nourriture. Surtout que 80% des détenus, selon cette ONG, ne mangent pas la nourriture de la prison qui serait mal préparée. Le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix explique la situation. Emmanuel Adoukolé est au micro de Jeff Ngoy.
Beaucoup de personnels sont mécontents pour une nouvelle décision qui est prise par le nouveau directeur. Demain, ils sont en discussion pour que cette mesure soit enlevée. Mais ce qui est vrai, nous plaidons pour que l'État revoie le problème de communication. Parce que l'État congolais ne dispose pas les moyens adéquats pour financer le matériel que les prisonniers vivent. Les zones dans lesquelles cet appareil, ça leur permet d'être en contact avec les familles. Surtout que les prisonniers qui ne sont pas les familles, c'est à Kinshasa. Parce que vous savez, on prend les prisonniers de Katanga, de partout dans la province, on a mis à Kinshasa. Alors, ils utilisent ce téléphone-là pour être en contact avec les familles. Parce qu'il n'y a pas un centre de cabine de téléphonique en prison comme en Douro pour que des gens soient être en contact avec les parents. Même pour mettre les propriétés en prison, ce sont les prisonniers qui font la cotisation. Donc, je vous dis que l'État n'a pas les moyens de son action. 80% des prisonniers, ils ne mangent pas les nourritures qu'on prépare en prison.
En perspective d'un mouvement de grève évité hier à la prison centrale de Makala, les nouvelles autorités pénitentiaires ont engagé un dialogue avec les personnels pénitentiaires en vue d'assouplir certaines mesures, dont les restrictions relatives à la pratique des petits commerces à l'intérieur de la prison. La situation est bien calme à Makala, avec une bonne entente de tous les agents, affirment ces autorités. En ce qui concerne les téléphones ravis aux détenus, au cours d'un briefing hier avec le ministre de la Communication et Médias, le ministre d'État en charge de la justice rappelle la stricte application de la loi pénitentiaire interdisant à tout détenu de posséder un téléphone, un réchaud pour préparer ou un couteau, ce qui constituerait un danger à la sécurité pénitentiaire, d'après le ministre Constant Mutamba. Province du Tanganyika, signalant l'évasion pendant ce temps de 5 détenus de la prison centrale de Manono. L'administrateur du territoire de Manono exprime son indignation face à cette nouvelle évasion le week-end. Il annonce que cette maison carcérale nécessite une subvention du gouvernement provincial pour renforcer la sécurité et mettre fin à des évasions à répétition. Le point avec Paulin Munanga.
L'administrateur du territoire de Manono annonce que les détenus ont placé des bois sur les murs de la prison pour s'évader. Il souligne que cette évasion a été facilitée par le policier qui assurait la garde et qui est aussi en cavale. Pour Cyprien Kitanga Kibale, la prison centrale de Manono doit être réhabilitée pour améliorer les conditions carcérales et élever les murs de clôture.
Ils ont escaladé le mur et ils sont partis en complicité avec le policier qui était commis à la garde. Il y a trop d'évasion à Manono. Cela d'abord est dit à quoi? Les normes de prison, c'est au moins 6 mètres. Mais notre prison a 3 mètres de mur. Imaginez, nous avons déjà fait des rapports. D'ailleurs, quand il y a eu des évasions massives, ici, il y a eu une commission de la province qui est descendue. Mais on s'attendait des recommandations qu'on a données et rien n'a été résolu.
En 2024, une série d'évasions ont été enregistrées à la prison centrale de Manono. La plus spectaculaire est celle de la mi-juillet où tous les détenus de la prison centrale de Manono se sont échappés après avoir creusé un tunnel. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, en Ituri, cette découverte de 12 corps sans vie des personnes tuées par des présumés ADF, elles ont été découvertes samedi et dimanche dans la forêt aux environs des villages de Bwanasura et Haute-Madber dans le sud du territoire d'Irumu. Des activistes des droits de l'homme plaident pour l'intensification des opérations conjointes FARDC armée ougandaise dans cette zone où les ADF multiplient les exactions contre la population. Martial Kizabiamungu, reportage.
4 premiers corps ont été découverts le samedi soir aux alentours du village de Bwanasura, en pleine forêt dense par des jeunes volontaires. Selon des activistes de droits humains dans la zone, les victimes ont été tuées par des hommes armés identifiés aux rebelles des ADF. Dimanche, 8 autres corps sans vie ont été retrouvés vers Haute-Maber dans les groupements Banavilemba. Les victimes, composées essentiellement des retournés de guerre, ont été surprises dans leur champ par des hommes armés. Leurs corps, qui étaient déjà déjà en état de décomposition avancée ont été enterrés au lieu du drame. L'ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH demande au gouvernement de prendre ses responsabilités pour mettre fin aux tueries des civils qui se sont intensifiées depuis le début de cette année 2025 dans la région. Son coordonnateur Christophe Mouniadérou ajoute que ces exactions des ADF ont découragé de nouveau des placés qui s'apprêtaient à retourner dans leur village d'origine où une accalmie était observée depuis plusieurs mois. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole de l'opération Oussouja contre les ADF sur l'axe Comandaluna à Sisigi. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, des violents combats opposent l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 sur au moins deux fronts ce mardi dans le territoire de Masisi. C'est notamment autour de Ngungu, groupement Oufamandu Ier, et autour de Sake, groupement Kamuranza. Si au niveau de Sake, l'intensité des combats a baissé déjà dans la matinée, des détonations d'armes lourdes se sont poursuivies toute la matinée autour de Ngungu. Le récit de Bernard Nyangi.
C'est depuis 4h du matin ce mardi que les positions des FARDC ont été ciblées par des tirs de mortier lancés par les rebelles du M23 depuis la colline de Kiouli et trois antennes surplombant Kimoka à Sake. L'échange de tirs qui s'en est suivi n'a duré qu'à peine 2 heures, indiquent nos sources. Certains habitants de Sake, qui commençaient à fuir le milieu, ont regagné la cité quelques heures après. Cette attaque rebelle autour de Sake intervient après un échange de tirs dans la soirée entre 17h et 18h locales hier lundi, opposant deux factions de groupes Ozalendo causant des morts dans les deux camps. Celles-ci se seraient disputées la gestion des barrières de perception des taxes illégales sur l'axe Kimoka-Kichanga, indiquent nos sources. Par ailleurs, une offensive est lancée par l'armée congolaise pour tenter de déloger le M23 de Ngungu, groupement Oufamandu Ier, et ce mardi au troisième jour. Des détonations d'armes lourdes et légères y sont toujours entendues, et selon plusieurs sources, l'armée congolaise et les Ozalendo aurait déjà repris le contrôle de plusieurs villages autour de Ngungu. C'est entre autres Kataandwa, Ruzirantaka et leurs environs, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, la MONUSCO condamne la violation du cessez-le-feu et la poursuite de l'avancée du M23 au Nord Kivu. Dans un communiqué de ce mardi, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la mission onusienne condamne avec la plus grande fermeté l'offensive récente menée par le mouvement du 23 mars M23 le 2 janvier 2025. Cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement des dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans l'est de la RDC, indique le communiqué. Cette escalade de violence qui affecte cruellement les populations civiles constitue un tournant tragique en ce début d'année 2025 et doit cesser immédiatement, ajoute Madame Bintou Keïta. Et puis, le nouveau commandant de la 3e zone de défense exhorte les officiers à la discipline, à l'union et au patriotisme. Le lieutenant général Pacifique Masunzu l'a dit hier à Kisangani en marge de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le lieutenant général Marcel Mbangu. Si nous sommes unis et que nous faisons preuve de patriotisme, nous allons venir à bout de l'ennemi, le Rwanda, et les groupes armés qui agressent notre pays, a souligné le nouveau commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Pacifique Masunzu. Sunzu, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Vous êtes appelés à observer la discipline, à l'imposer aux unités sous vos commandements, car nous avons une mission, pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible, celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens à travers notre zone de responsabilité. Une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une très grande mission, une mission très compliquée, mais dont nous avons l'obligation de réaliser pour permettre la population congolaise à être dans la paix, car ce n'est ni une autre armée ou quelqu'un d'autre qui pourra l'exécuter en dehors de nous, car ça demande l'union dans le cadre des commandements. Nous avons l'obligation d'avoir l'amour envers notre patrie. Lorsque nous serons animés tous par l'esprit de patriotisme, c'est à ce moment-là que nous allons éradiquer définitivement cet ennemi.
Rappelons que le lieutenant-général Marcel Mbangu est muté au Congo central où il va prendre le commandement de la base militaire de Kitona. Toutes les composantes de la société civile du Sud qui vous disent chercher à comprendre le pourquoi du flou qui entoure l'affaire d'exploitation illégale des minerais par un groupe d'étrangers chinois dans des zones rurales. Hier, les mouvements citoyens, ensemble avec les autres structures citoyennes, ont organisé un sit-in devant le cabinet du gouverneur du Sud qui voit Bukavu, cela en attendant la tenue d'une marche pacifique élargie à toutes les composantes. Jean Kassami.
La goutte qui fait déborder les vases, c'est bien l'importante somme d'argent, plus un important colis d'or saisi sur un groupe de Chinois le 4 janvier à Bukavu. La société civile aurait été alertée que de fortes pressions seraient ourdies à Kinshasa pour venir récupérer cette aubaine vers une destination inconnue. Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile Sud-Kivu.
Au départ, les montants étaient de 800 000, maintenant on parle de 400 000. C'était 12 lingots, on commence à parler de 10. En tout cas, nous voulons en savoir plus en attendant notre manifestation générale qui aura lieu le mercredi.
Le gouverneur a rassuré la délégation que ces colis de grande valeur est toujours à Bukavu et sera consigné à la banque. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes aux Comores. Le premier tour des élections législatives est prévu le 12 janvier 2025, mais le scrutin ne fait pas l'unanimité. Le parti Djoua de l'ancien président de la République, Ahmed Abdallah Sambi, a par exemple décidé de boycotter cette élection sur l'île de Moéli. Plus qu'ailleurs, le boycott est très suivi.
L'invité.
Nous sommes à Goma. Le Centre pour handicapés physiques, Shirika la Umoja, a totalisé 60 ans d'existence l'année dernière au service de la communauté. Créé le 15 septembre 1964, ce service de l'Église catholique, de la Congrégation des Frères de la Charité, accompagne en moyenne 2000 personnes chaque année. C'est dans le cadre de cet anniversaire que nous recevons Sylvain Siava, administrateur de ce centre. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Sylvain Siava, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous avez récemment organisé une matinée porte ouverte pour montrer à la population les services que le Centre pour handicapés physiques Shirika la Umoja rend à la communauté. Quels sont ces services?
Les services qui sont organisés ici, comme vous le savez, nous sommes un centre spécialisé dans les domaines de la rééducation physique à travers deux grands services. Les services de kinésithérapie, mais aussi les services d'appareillage orthopédique. Aux côtés de ces deux grands services, nous avons des services connexes, la logistique et l'administration, qui essayent de mettre tout en musique pour que ça fonctionne. Mais les gros, c'est le service, les soins de kinésithérapie et l'appareillage orthopédique aux personnes handicapées. Alors, les soins de kinésithérapie qui est subdivisé en plusieurs unités, nous avons un pavillon spécialisé pour les soins des enfants infirmes moteurs cérébraux. Nous avons un pavillon dédié aux soins des patients paraplégiques, ceux-là qui sont paralysés des membres supérieurs ou inférieurs. Et nous avons aussi un service de kiné qui s'occupe de la rééducation à la marche, qui travaille en collaboration avec l'appareillage orthopédique.
Et c'est depuis 60 ans que le centre est opérationnel. Comment ont évolué les services que vous offrez?
Au départ, à la création, cela a commencé par une école d'apprentissage des métiers aux personnes handicapées qui circulait dans la ville de Goma. Et par après, aussi avec un service minimum de soins de kinésithérapie. Au fil des années, le centre a pris des dimensions importantes au sein de la communauté jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Comment vous assistez les enfants?
Plusieurs techniques sont utilisées dans ce domaine-là pour pouvoir récupérer ce qui peut l'être auprès de ces enfants qui sont touchés de l'infirmité motrice cérébrale. Entre autres techniques, ils appliquent la stimulation précoce pour essayer de stimuler certains aspects pour que les enfants reprennent un peu leur motricité aux côtés d'autres séances de soins de kinésithérapie que les kinésithérapeutes essayent de donner aux enfants.
Le centre est opérationnel à Goma, mais vous recevez les patients de quel milieu?
Le rayon d'action du centre, il est vaste. Je parlerai de l'Est de la RDC, parce que nous avons des patients qui nous viennent de Kisangani, nous avons des patients qui nous viennent de Butembo, nous avons des patients qui nous viennent de Kindu, parce qu'il faut dire, partout là-bas il y a des centres, mais l'ampleur de ces centres n'est pas les mêmes que ces centres qui sont situés dans ces milieux. Mais nous avons des patients qui nous viennent aussi des villes et provinces voisines de la RDC, telles que Gisenyi et d'autres provinces du Rwanda.
En moyenne, combien de personnes fréquentent les centres chaque année?
Chaque année, au terme des services que nous rendons aux bénéficiaires, plus de 2000 bénéficiaires sont reçus ici chez nous en consultation et divers domaines de prise en charge.
Et à quels défis vous faites face dans ce travail en faveur de la communauté?
Les défis sont majeurs. Ce centre spécialisé comme celui-ci, pour fonctionner, il a besoin de consommables. Et les marchés en termes de consommables, nous devons importer tout ce que nous mettons en contribution pour rendre service à la communauté. Notre rayon d'action, il est limité actuellement à cause de toutes ces violences récurrentes et ces guerres à répétition. Ça fait que nous avons des bénéficiaires à qui nous ne savons pas rendre service parce qu'ils sont bloqués dans les axes à l'intérieur de la province. Un autre défi, c'est la vulnérabilité de la communauté qui nous fréquente. Elle est touchée par ces guerres à répétition et la situation économique du pays que vous connaissez. Et donc, nos revenus au niveau de la mobilisation au niveau local sont faibles, alors que les besoins pour la prise en charge des bénéficiaires deviennent de plus en plus importants.
Et parce que nous sommes au début de l'année, quelles sont vos perspectives pour cette année nouvelle?
Nous pensons, au courant de cette année, et continuer comme les autres années, à intensifier notre programme de plaidoyer auprès de nos autorités pour voir dans la mesure du possible comment ils peuvent accompagner ces centres en termes de soutien de divers ordres. Nous pensons également continuer la sensibilisation de la communauté par rapport à la prise en charge des vulnérables et autres personnes handicapées dans notre communauté. Nous pensons aussi intensifier notre service auprès de la communauté tout en améliorant davantage avec autant de formations internes pour améliorer la qualité et la prestation de nos bénéficiaires de services.
Monsieur Sylvain Siahava, je rappelle que vous êtes l'administrateur du Centre pour handicapés physiques à Chirikala Umoja de Goma. Merci.
Merci, madame la journaliste.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.